Merci Thomas pour tes doutes. Émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Le doute de Thomas sur la résurrection de Jésus nous aide à croire. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 24 à 29.
Petite histoire écrite par John Graz. On m'a raconté l'histoire de ce conférencier qui, au début du siècle dernier, voulait prouver que Dieu n'existait pas. L'épisode se serait passé à Genève. Prenant Dieu à témoin, l'homme dit avec véhémence « Dieu, si tu existes, prouve-le. Je vais fermer les yeux et compter jusqu'à 10. À 10, foudroie-moi. Ce sera la preuve de ton existence. » On lui met un bandeau sur les yeux, roulement de tambour. L'instant est solennel. Silence total dans la salle. Les spectateurs sont partagés entre l'admiration et une certaine gêne. N'est-ce pas dangereux de provoquer ainsi Dieu ? Qui sait ? L'homme se met à compter. 1. Silence. 2. Silence. Pendant ce temps, un jeune homme monte sur scène et sans bruit se place derrière l'orateur. 7. 8. 9. Et au moment où celui-ci dit 10, le jeune homme lui envoie un formidable coup de pied au postérieur. L'homme ne comprend pas ce qui lui arrive et se met à hurler. Il enlève son bandeau, se retourne et regarde l'auteur du magistral coup de pied et avec colère lui dit « Mais pourquoi m'avez-vous frappé ?» Le jeune homme lui répond avec aplomb « Vous dites que Dieu n'existe pas parce que vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu mon pied, mais vous l'avez senti. » Et en quittant la scène, il ajoute « Moi, c'est pareil. Je n'ai pas vu Dieu, mais je l'ai senti agir dans ma vie. » Ce fut la fin de la démonstration. Ce fut aussi, dit-on, la dernière conférence de l'orateur sur ce sujet. Écoutons maintenant le message de John Graz.
Chaque année, la chrétienté tout entière célèbre Pâques et la résurrection du Seigneur. À cette occasion, je voudrais dire merci. Merci bien sûr à notre Seigneur Jésus-Christ qui donna sa vie pour nous et qui, par sa résurrection, nous offre la vie après la mort. C'est John Graz qui vous parle et je suis très heureux de vous retrouver. Mais il y a quelqu'un d'autre à qui je voudrais dire merci. C'est Thomas. Oui, je voudrais dire merci à Thomas. Thomas, l'apôtre qui accepta d'aller à Jérusalem pour mourir avec Jésus. Thomas le courageux. Mais Thomas aussi qui s'enfuit avec les autres lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémané. Et Thomas le courageux, Thomas le lâche. Un peu finalement comme chacun de nous, courageux et lâche à la fois. Thomas qui croit. Et Thomas qui doute. Mais, me direz-vous, est-ce bien nécessaire de dire merci à Thomas ? Cet apôtre ne croyait pas, il ne faut pas l'oublier, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Alors j'accepte la question, mais Je signe et je persiste. Oui, merci, merci, Thomas, merci à Thomas. Pourquoi ? Pour la bonne raison que Thomas, par ses doutes, rend le récit de la résurrection crédible. L'épisode cité nous est raconté par Jean au chapitre 20, les versets 24 à 29. Il nous présente Thomas qui veut des preuves tangibles pour croire. Jésus ressuscité lui donne les preuves qu'il demande et Thomas, bouleversé, croit et confesse sa foi. Jésus lui reproche ses doutes et il loue ceux qui croient sans preuves visibles. Alors revenons au début de l'histoire. Thomas refuse de croire. C'est le premier jour de la semaine. Les disciples sont réunis, les portes étaient bien fermées car ils avaient peur d'être arrêtés. Et nous dit le texte, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19, « Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Il leur montra ses mains et son côté. Jésus s'identifie de manière à ce que personne ne puisse dire « C'est un fantôme, c'est une vision de l'esprit ». Non, c'est bien lui. Pendant cette première rencontre, les disciples reçoivent le Saint-Esprit. La mission de prêcher la bonne nouvelle à tous est le pouvoir de pardonner les péchés. Mais c'est un moment extraordinaire, bien sûr. Mais Thomas n'est pas là. Thomas, l'un des douze, n'est pas avec eux. Ils sont tous là, sauf Thomas. Et pourquoi Thomas n'est-il pas là ? Dans un moment aussi critique qu'il aurait dû être avec ses frères les apôtres, mais il n'était pas là. Quand on n'est pas là avec la communauté, on peut manquer des choses importantes. Et lorsque Thomas revient dans le groupe, les apôtres, avec enthousiasme, partagent avec lui l'extraordinaire, la fabuleuse nouvelle, Jésus est ressuscité. Alors je les imagine. Thomas, tu nous as manqué, tu as manqué quelque chose de fantastique, Jésus est apparu, tu te rends compte, Thomas ? Nous avons vu le Seigneur, il nous a parlé, il nous a montré ses plaies, ce n'est pas un fantôme, c'est lui, il est vivant. Mais quel dommage, Thomas, tu n'étais pas là. Au lieu de recevoir l'extraordinaire bonne nouvelle et de partager la joie de ses frères, Thomas se replie sur lui-même et il dit avec détermination, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il refuse de croire. Il refuse de croire au témoignage des apôtres. C'est plus qu'un doute, c'est vraiment un effort, une volonté de ne pas croire. Il aurait pu dire, « Ah oui, c'est trop beau pour être vrai, alors j'ai quelques questions quand même. » Il aurait pu argumenter, il aurait pu dire, « Est-ce que vous êtes sûr que c'était bien lui ? On raconte que vous avez volé son corps dans la tombe. Où l'avez-vous mis ?» C'était le bruit, en effet, que faisaient courir les autorités pour nier la résurrection. Pierre, Jean et les autres lui auraient répondu, « Écoute, Thomas, on est resté caché tout le sabbat tellement on avait peur. Nous aussi, on avait peur d'être arrêtés. Les soldats nous recherchaient, ne l'oublie pas. Et on a encore très peur. Alors comment voulais-tu que nous organisions un commando ? Et avec quelle arme aurions-nous pu affronter les soldats romains qui gardaient la tombe ? L'épée de Pierre ? N'oublie pas, Thomas, que les soldats avaient été avertis d'une éventuelle attaque. Un enlèvement du corps signifiait pour eux la condamnation à mort. Et on ne plaisante pas avec la discipline dans l'armée romaine. Non, Thomas ne discute pas. Il n'essaie pas de comprendre l'enthousiasme de ses amis, les apôtres. Il campe sur ses positions. Moi, Thomas, je n'ai pas vu Jésus ressuscité. Donc, pour moi, il n'est pas ressuscité. Jésus est mort. Il est mort sur la croix. Il y a des témoins. Moi, Thomas, je suis rationnel. Le soldat lui a percé le côté pour être sûr qu'il était bien mort. Alors, il est mort. En fait, les disciples seraient bien mal placés pour le juger. Pourquoi ? Parce que eux aussi n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à la résurrection lorsque les femmes leur ont annoncé la nouvelle. Thomas leur emboîte le pas. Il pose ses conditions. Je croirai à une condition. Non seulement que je vois la marque des clous dans ses mains, mais aussi que je touche la plaie laissée par la lance qui a percé son corps. Autrement, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, je ne croirai pas. Nous non plus. Nous n'avons pas vu Jésus ressuscité. On a lu le texte, mais on peut se poser la question, est-ce vraiment arrivé ? Est-ce possible ? Peut-on ressusciter des morts ? Les apôtres ont vu, mais est-on sûr de ce qu'on voit ? Vous savez, il y a de grands illusionnistes qui vous font voir des choses qui n'existent pas, ou qui font disparaître des choses qui existent. Pour des milliers de spectateurs, et ça je me souviens, il y a quelques années déjà, David Copperfield avait fait disparaître la Statue de la Liberté à New York, et pourtant, la statue, bien sûr, n'avait pas bougé. Thomas se veut rationnel, logique, et peut-être même scientifique. Je veux des preuves tactiles. Je veux toucher et toucher ses plaies. Non seulement les voir, mais les toucher. Ce sera une preuve irréfutable. Thomas n'a pas vu, il n'a pas touché, donc il ne croit pas.
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Si je crois ce que je vois, ce que je touche ou j'entends, alors je ne crois pas aux ondes, aux ultrasons, à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Je ne crois pas à l'univers infini, car même avec les télescopes les plus puissants, nous n'en voyons qu'une partie. En réalité, on connaît si peu de choses. Pendant 8 jours, l'apôtre campe dans sa position. Pas vu, pas touché, pas cru. En secret, il attend sans doute quelque chose. Il attend que quelque chose se passe, peut-être un signe, un geste du Seigneur, un indice, mais rien. Il voudrait croire, bien sûr qu'il voudrait croire. Le 3e jour, rien ne se passe. Le 4e jour, rien. Le 5e jour, rien. Mais si quelque chose doit se produire, ce sera le jour du sabbat, ou le dimanche, une semaine après la résurrection. Mais le jour arrive et rien. Le temps qui passe semble lui donner raison. Et le 8e jour arrive. Les disciples ont encore peur des autorités, les portes sont bien fermées, rien ne laisse supposer que quelque chose va se passer. Et tout à coup, Jésus se retrouve au milieu d'eux. Il n'a pas frappé à la porte, il n'a pas appelé Pierre ou Jean, mais il est là, au milieu d'eux, et il les salue par la formule « Que la paix soit avec vous ». J'imagine Thomas, tétanisé. Quel choc ! Le Seigneur le regarde, et comme s'il était venu spécialement pour lui, il lui dit « Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et il ajoute, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas est tellement bouleversé, un peu comme Paul sur le chemin de Damas, qu'il passe en quelques instants du refus de croire, du doute le plus profond, à une foi qui dépasse celle des apôtres. Désormais, non seulement il croit en la résurrection, mais il va plus loin. Il est le premier à confesser publiquement la divinité du Christ, mon Seigneur est mon Dieu. Il est convaincu. Rien ne pourra remettre en cause sa foi, même pas la persécution, la torture. En effet, la tradition dit qu'il est allé évangéliser l'Inde. Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de l'Église indienne. Son tombeau, toujours selon la tradition, serait la basilique Saint-Thomas à Chennai. Thomas nous encourage par ses doutes. Jésus le reprend et Jésus aussi nous encourage. Il aurait pu se satisfaire d'une si belle confession, Jésus, mais il a pensé à tous les disciples qui se succéderaient année après année, siècles après siècles. Pour eux, pour nous, il a voulu donner un message d'encouragement. Il commence par un constat. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Les autres apôtres n'avaient pas cru. Ce n'est pas un reproche spécialement adressé à Thomas, car les autres n'avaient pas cru non plus. Ils ont cru quand ils ont vu. Pierre et Jean auraient pu rester cachés et simplement croire Marie de Magdala, quand elle leur a dit que Jésus était ressuscité. Ils voulaient voir, ils voulaient des preuves, ils ont couru à la tombe, ils ont voulu vérifier si la tombe était vide. Ils ont constaté que la tombe était vide. Mais ont-ils cru pour autant? Ils ont cru vraiment quand ils ont vu de leurs yeux Jésus ressuscité. D'ailleurs, quand le Seigneur leur apparaît, il leur montre ses mains et son côté percé. En Galilée, alors que les disciples en nombre plus important le rencontrent, Matthieu écrit « Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage. » Et il ajoute « Mais quelques-uns doutèrent. » Incroyable. Il le voit et malgré tout, quelques-uns doutent. Ça veut dire que même la preuve la plus manifeste laisse encore suffisamment de place pour le doute, pour notre liberté de refuser de croire. Il y aura toujours des gens qui douteront, comme il y aura toujours des gens qui croiront. Avant ma conversion, j'ai traversé une période où je refusais de croire et où je rejetais toutes les formes de croyance. À cette époque, je pensais que les croyants étaient des ignorants, des imbéciles, des pauvres d'esprit, des faibles. Je pensais que les preuves, toutes les preuves, étaient du côté des incroyants. Je pensais aussi que le christianisme se porterait beaucoup mieux s'il éliminait de son héritage les légendes comme la création, le déluge, la résurrection. Et pourtant, le message qui va bouleverser le monde, c'est justement le message de la résurrection. Il est vivant. Paul écrit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. » Si finalement, dans notre monde sécularisé, on peut dire que Jésus est le plus grand des philosophes, des penseurs, des orateurs, alors ça passe bien, comme Confucius ou Bouddha, par exemple. Mais avouez que cette histoire de résurrection rend notre témoignage plus compliqué. En effet, la foi chrétienne repose sur la résurrection du Seigneur. Elle ne repose pas sur une histoire légendaire ou sur une rumeur. Elle se fonde sur un fait. Jésus est ressuscité. Paul ne laisse planer aucun doute. Il écrit « Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant aussi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. » Thomas et les disciples doutaient, c'est vrai, mais le doute fait partie de la foi. Un peu comme si la foi était plus une affaire de conviction, d'acte volontaire, que de preuve. Jésus le sait, et il dit à Thomas, et il nous dit aussi, « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et si je vous posais la question suivante, sur quoi repose notre foi en la résurrection? À la différence de Thomas et des disciples et des 500 qui l'ont vu, nous, nous n'avons pas vu le Seigneur ressuscité. Alors, pas vu, pas cru. Qu'est-ce qui fait que nous croyons à la résurrection? Bien sûr, il y a des indices. Il y a des indices que tous les chercheurs reconnaissent. Par exemple, le courage des disciples de prêcher la résurrection malgré les persécutions. Si les apôtres ont menti, pourquoi n'ont-ils pas renié leur foi sous la torture? Ça, c'est une question quand même. Et quel intérêt avaient-ils à prêcher Christ ressuscité? Aucun. Ce que nous croyons ne repose pas sur les démonstrations rationnelles, mais sur quelque chose de plus profond, sur une expérience, sur une conviction intérieure, inexplicable, c'est vrai, mais réelle. Alors quelque chose qui place la résurrection de Jésus au cœur de notre foi. Et pour cela, selon les mots de Jésus, nous sommes bien heureux car nous n'avons pas vu ce que les apôtres ont vu, mais nous avons cru. Nous croyons que Jésus est vivant, qu'il est au milieu de nous, qu'il revient bientôt et qu'à son retour, nous aussi, nous ressusciterons. Alors, merci Thomas, merci car tes doutes nous aident à mieux croire. Tu as douté pour mieux croire. Tu voulais des preuves, Dieu te les a données. Tes preuves sont aussi nos preuves et elles nous aident à croire. On raconte que pendant la période stalinienne en Russie, où des dizaines de milliers de croyants étaient fusillés, un groupe de fonctionnaires soviétiques visitait une église historique. À la fin de la visite, le prêtre termina son commentaire par la formule chère à nos amis orthodoxes « Christ est ressuscité ». Il le dit de tout son cœur. Ce fut comme un rayon de soleil dans les ténèbres et sans hésiter, les fonctionnaires du régime reprirent avec force « Christ est ressuscité ».
Pour être pratique.
Et maintenant, pour être pratique, toujours les trois points. Le premier point, il faut se rappeler que la résurrection est le cœur de l'espérance chrétienne. La résurrection du Christ est notre propre résurrection. Et puis le deuxième point, partager avec ceux qui affrontent le deuil d'un être cher le message de la résurrection. Troisième point, fortifier sa foi dans la résurrection en relevant, par exemple, dans le Nouveau Testament, les affirmations de Jésus et des apôtres.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».